Donc ce soir, nous allons terminer notre année sur le surnaturel miraculeux reconnu par l'Église. Et donc, dans différentes manifestations qui sont les miracles eucharistiques, c'est-à-dire les actions de Dieu sur à l'occasion de l'adoration eucharistique à l'occasion de la messe. Et ensuite, nous verrons aussi les guérisons corporelles. Et donc l'exemple plus particulièrement de Lourdes. Nous verrons aussi les stigmates. Et ça, je n'ai pas trouvé de la liste de tous les stigmatisés. Les bilocations, et nous verrons l'exemple du Padre Pio. Nous verrons aussi, comme autre miracle, la lecture dans les cœurs, et donc avec le Saint Curé d'Ars, les lévitations aussi, mais je n'ai pas eu une liste exhaustive. Les miracles sur les phénomènes naturels, les stigmates, pas seulement des plaies du Christ, mais de la couronne d'épines, le don des langues, ou alors le fait de vivre uniquement de l'Eucharistie, et les corps incorrompus, également la résurrection des morts. Obtenu par des saints, et nous verrons la vie de Saint Vincent Ferrier que nous fêterons l'année prochaine. Et voilà. Ensuite, vous avez une liste de saints dont le corps ne s'est pas corrompu, une liste de 236 cas qui sont relevés par l'histoire de l'Église. Nous aurons et donc 135 femmes, 111 hommes, et avec un livre qui lui, différents livres qui ont répertorié ces miracles, donc ça vous donnera aussi une bibliographie. Mais tout d'abord, pour entrer dans cette action divine, il faut des considérations théologiques sérieuses, et c'est la raison pour laquelle je m'inspirerai directement et totalement des introductions qui sont faites dans le livre Miracles eucharistiques autour du monde, aux éditions de Saint Clément Ier, pape et martyr, de l'Institut Saint Clément, hein, Institut Saint Clément, qui fait d'excellents livres, avec une traduction française, puisque l'original est en italien, mais on peut trouver ce livre en français. Il est disponible sur Internet sans avoir à l'acheter, mais sinon, je ne pense qu'il est en rupture d'édition, mais sur Internet, avec beaucoup de patience, parce que chapitre par chapitre, il a été mis en PDF, mais il est accessible, hein, eh bien, vous pouvez le trouver. Si vous mettez Miracle Eucharistique autour du monde, Institut Saint-Clément, sur Internet, vous aurez en PDF les différentes pages de ce livre. Alors, les articles qui ont été proposés en introduction sont excellents, donc je vais vous les commenter en les lisant. Le premier est de Monseigneur Raffaello Martinelli, recteur du Collège ecclésiastique international Saint-Charles, qui est un official, c'est-à-dire un membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, voilà la position de l'Église par rapport à tout miracle eucharistique. Un jour, il y a une femme qui était connue pour avoir communié avec des hosties qui devenaient sanglantes dans sa bouche et qui avait été visitée par Jean-Paul II. Pas visitée, enfin, on l'avait présentée lors d'une de ses visites dans ce pays, je ne sais plus où exactement. Et alors qu'elle communiait, elle montrait à tout le monde, ah, vous voyez, les saints en général, ils communient. Et s'ils sentent qu'il y a eu un miracle dans leur bouche, ils ne vont pas appeler tout le monde à regarder ce qui se passe dans leur bouche. Une sorte de manque de pudeur étrange. Et je crois que j'ai vu une photo, n'est-ce pas, où on voit le pape Jean-Paul II, puisqu'on l'interpelle pour regarder. Alors, c'est comme celui aussi qui avait les mains qui suintaient de l'huile, à la manière, si vous voulez, en priant comme le Christ à l'agonie au jardin des Oliviers. Sauf qu'à un moment donné, il avait été tellement filmé qu'on s'était aperçu qu'il faisait tomber de ses manches des poches extrêmement fines d'huile qu'il écrasait en joignant les mains. Et ça faisait que ses mains étaient toutes huilées. Voilà. Mais c'était faux. Alors, voilà ce qui est les avertissements de l'Église. Notre foi, première chose, n'est pas fondée sur les miracles eucharistiques. La foi est fondée sur l'autorité de Dieu qui révèle et sur sa grâce. Et donc, Saint Louis, passant près d'une église où il y avait eu un miracle eucharistique, il ne s'est pas arrêté. Ses compagnons disaient, mais allons dans cette église. Il a dit, je crois. Mais sur l'annonce du Christ, notre Seigneur accueilli dans la foi grâce à l'action du Saint-Esprit. Nous croyons par ce que nous avons cru à la prédication, fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi, c'est chapitre 10 de l'Épître aux Romains, verset 17. La foi dépend de la prédication, c'est-à-dire elle est entendue, et la prédication se réalise à travers la parole du Christ. Croire est un acte d'intelligence qui, poussé par la volonté de Dieu, moyennant sa grâce, donne son consentement à la vérité divine. Saint Thomas, dans la Somme théologique, et vous aurez les références quand l'écrit vous sera apporté. Donc c'est l'intelligence qui, poussée par la grâce, adhère à ce que Dieu dit, parce qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Alors on se dit, mais alors si c'est une grâce, c'est purement gratuit, donc quoi que je fasse, je l'aurai ou je l'aurai pas, enfin, il y a une coopération à ce don de la foi. Mais si vous voulez, on n'a pas à la peser, et c'est vrai que en soi, la grâce de la foi est quelque chose qui est donné par Dieu. Mais le fait même qu'on puisse librement faire obstacle à cette grâce et la refuser montre aussi que le fait de ne pas y faire obstacle est quelque chose de nous, même si c'est toujours gratuit. Alors, comment expliquer la conversion? Comment expliquer la foi? Ben c'est quelque chose qui est véritablement un acte qui se déclenche en nous, notre intelligence et notre volonté qui se laissent saisir par la grâce. Alors vous allez me dire, je ne sais plus quel est cet homme qui a fini par se convertir. Vous avez la chance d'avoir la foi. Moi je ne l'ai pas. Je me demande si c'est pas Charles de Foucault. Enfin voilà. Et lui, il a fini par ne pas y faire obstacle. Et donc, même si vous assistez à un miracle eucharistique, vous pouvez très bien considérer qu'il y a un subterfuge ou une prestidigitation. Donc, ça n'emportera pas votre volonté. Ça peut conforter la foi si vous l'avez déjà. Ça peut vous sidérer, mais ce n'est pas cela qui vous donne la foi en la présence de notre Seigneur, parce que, si vous voulez, c'est croire en l'amour de Dieu qui s'est fait homme. Déjà, croire que Jésus est Dieu, ça pose un problème à beaucoup de monde et à des personnes qui sont pieuses et qui croient en l'existence de Dieu. Mais l'incarnation pour eux est un blasphème, est indigne de Dieu. Alors si en plus Dieu se trouve dans un morceau de pain, qui, par-dessus le marché, n'est même plus la substance du pain, eh bien l'imam de la grande mosquée de Paris avait la simplicité de dire dans un livre de théologie musulmane, sérieux, un livre de théologie, il dit, pour nous, c'est un horrible blasphème. D'abord, que Dieu soit dans une hostie, c'est incroyable. Et que Dieu se laisse manger, c'est encore plus incroyable, c'est inadmissible. Et pourtant, André Frossard, qui certains diront qu'il n'a pas été tout à fait converti, puisqu'à la fin de sa vie, il considérait que tout le monde irait au paradis, Lucifer le premier. C'était par bonté d'âme. André Frossard, lui, au contraire, a été vraiment converti par une adoration eucharistique. Parce qu'il a reçu une grâce au moment même où il entrait dans une église, il attendait un ami, il y avait une adoration eucharistique. Bon, il se disait athée, hein. Et puis là, le bon Dieu l'a piégé et il s'est converti, mais sinon, mais Dieu qui justement est présent dans une hostie, mais c'est extraordinaire. Quelle humilité, quelle présence, il a été emporté par cette affirmation de l'Église que dans l'hostie est présent Dieu lui-même. Et avec son côté rationaliste, il disait, mais en plus, c'est le meilleur moyen de s'unir à Dieu, puisque c'est comestible, c'est consommable. C'est un moyen extraordinaire même de pouvoir nous donner la réalité de s'unir à lui. À lui, ça l'a pas scandalisé, ça l'a tourné. Alors, le Christ est le centre de notre foi dans l'Eucharistie. Durant sa prédication, il a annoncé à l'avance son institution. Il l'a ensuite institué en célébrant avec ses apôtres à la dernière scène, le Jeudi Saint. Depuis lors, l'Église fidèle au commandement du Seigneur, vous ferez ceci en mémoire de moi, première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 24, a toujours célébré avec foi et dévotion l'Eucharistie, surtout le dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Elle continue à le faire jusqu'à sa venue. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Vous voyez, la messe n'avait pas lieu en semaine. Elle avait lieu le samedi soir, avec psaume, veillée, et à l'aube, on communiait. À quel moment était la consécration? Je pense qu'on était entré dans le dimanche. C'est l'origine de ce qu'on appelle des matines pour les moines, dans la veillée du soir au matin. Ensuite, parce que l'unité humaine, c'est le jour, eh bien, on a commencé à célébrer le saint sacrifice de la messe à des jours solennels, à des anniversaires de saints. Et puis, comme c'était en semaine, on a fini aussi par célébrer tous les jours. Mais sachez que c'est une coutume qui s'est imposée par piété, petit à petit, et qu'au XVIe siècle encore, des prêtres ne célébraient pas toujours la messe chaque jour. On donne toujours le même exemple, hein, Saint Ignace de Loyola a célébré sa première messe un an après son ordination. Et il assistait à la messe de Saint François-Xavier, sauf erreur de ma part. Comment ?
Saint-Pierre-Fabre.
Et le dimanche, il allait à la messe. Mais il était prêtre. Mais il allait à la messe. Et si vous voulez, même le dimanche, le prêtre n'était pas tenu de célébrer la messe. Il était tenu d'y assister. Pourtant, ce n'est pas une obligation pour les chrétiens de croire au miracle eucharistique. Deuxième point. Il n'engage pas forcément la foi des fidèles, même s'ils sont reconnus par l'Église. Chaque fidèle conserve la liberté d'appréciation. Aucun chrétien n'est obligé de croire à certaines révélations privées, même quand elles sont approuvées officiellement par l'Église. Toutefois, s'il y a une approbation publique de l'Église, il ne peut la critiquer publiquement. Donc dans son fort intérieur, il est libre de ne pas y croire, mais il ne peut pas dire « la Vierge Marie n'est pas apparue à Lourdes ». C'est offensant. Donc il se taise. Ou alors, il n'y a pas eu de miracle à Lanciano. Qu'il se taise. Enfin, qu'il garde. Du moment qu'il croit que notre Seigneur est présent à la Sainte Eucharistie, c'est étrange qu'il manque de, si vous voulez, de, de, il manque de respect à l'autorité de l'Église un peu quand même. Comment ?
Un manque de confiance. En fait.
Un manque de confiance, d'esprit filial par rapport à l'autorité de l'Église. En principe, le croyant ne doit pas conclure que Dieu puisse intervenir d'une façon extraordinaire à tout moment. Et ça, c'est très important, surtout de nos jours, hein, où on considère un peu que Dieu doit nous parler, doit faire des choses, sinon on n'est pas pieux, on n'est pas saint. Il faut avoir des révélations, il faut avoir des signes absolument. Et il y a des personnes qui n'en ont eu jamais et qui sont mortes en état de grâce et qui sont allées au ciel tout droit. Il est difficile de discerner si, en chaque événement, l'intervention authentique et extraordinaire de Dieu s'est vraiment manifestée. D'où la sévérité de l'Église. La prudence de l'Église face aux phénomènes extraordinaires, comme les miracles eucharistiques, est pleinement justifiée, car elle peut se trouver exposée au risque suivant. Supposer que Dieu ait oublié de nous dire quelque chose dans l'institution de l'Eucharistie. Vous voyez, je vous ai vraiment précisé qu'il y avait le corps et le sang, hein, mais je vous le dis. Considérer l'Eucharistie dominicale comme un événement d'importance secondaire. Ah oui, il faut aller dans cette église où il y a une hostie qui a saigné. Ah mais il va pas, mais il ne considère pas l'hostie qui est élevée lors de la messe. Enfin, c'est la même hostie. Il n'y a pas une hostie mieux qu'une autre hostie. Ça, il faut faire attention. Qu'une hostie sanglante augmente notre ferveur pour toutes les hosties, pour toutes les occasions où le Christ est présent. C'est la raison pour laquelle Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta, souhaitait qu'on ne communique pas dans la main. C'est impressionnant, hein, et pourtant elle est très moderne, mais pour elle, la coutume de communier directement sur la bouche qui s'était instaurée par la baisse de la ferveur au cours des siècles, hein, les premiers chrétiens communiaient dans la main. Mais ensuite, si vous voulez, ils ont considéré que leur ferveur augmentant et la tiédeur augmentant aussi, on a mis les fidèles à genoux et ils ont communié sur la langue. Et pour éviter les sacrilèges aussi, parce que quand vous l'avez dans la main, vous pouvez faire semblant de communier, et par augmentation, si vous voulez, de la ferveur. Oui. Alors, là, toute hostie doit être adorée, qu'elle soit miraculeuse ou pas. Voilà ce que dit l'Église, hein. Faites attention. Donner une importance excessive à l'aspect extraordinaire du miracle qui déprécierait la vie quotidienne du croyant et de l'Église. Croire trop facilement aux suggestions, tromperies et manigances, mais d'escrocs, ou de personnes qui n'ont pas toutes leurs raisons, très imaginatives. L'éventuelle approbation ecclésiale d'un miracle eucharistique contient les éléments suivants. Le fait relatif à l'événement ne contient rien qui puisse entrer en contradiction avec la foi et les bonnes coutumes. Vous avez une personne qui dit il pleut des hosties. Hein, donc elle est là en train de prier et tout d'un coup il y a des hosties qui tombent devant la statue de la Vierge devant laquelle elle prie. Donc il y a tout d'un coup, poum, 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 des hosties qui tombent du ciel. Vous voyez le bon Dieu faire tomber des hosties qui rebondissent à un moment sur la table. Oui, mais voilà, hein. Mais il y a des personnes pieuses qui tombent dans le panneau. Hein. Oh, c'est merveilleux, Dieu nous donne des hosties consacrées directement. Enfin, il faut savoir quand même que à Fatima, hein, il faut du temps pour la bénédiction ecclésiastique, et que quand vous avez un calice avec une hostie qui saigne et un ange, un être translucide comme en cristal, à forme humaine, qui se met à genoux à côté de vous, qui s'incline, ça rend crédible. Hein, voilà. À ce moment-là, on peut considérer que l'hostie qui a été amenée par l'ange est consacrée, c'est sûr. Il ne se mettrait pas à genoux s'il l'avait pas. Alors les théologiens se disent, mais où a-t-il récupéré le ciboire ou le calice et l'hostie? Alors certains disent, il l'a pris dans un tabernacle. Sauf que c'était une grande hostie. Non, Dieu a pu créer la matière de cette hostie et avec la transsubstantiation. Ça, je pense que Dieu peut faire ce genre. Alors, il est permis de le rendre public et les fidèles sont autorisés à donner au miracle leur adhésion d'une façon prudente. Même si personne n'est obligé d'y croire, le chrétien sera respectueux à l'égard du miracle eucharistique dont l'authenticité a été reconnue par l'Église. Aspect positif. Les miracles eucharistiques peuvent être une aide précieuse à notre foi. Ils peuvent, par exemple, aider à aller au-delà du visible, du sensible, et admettre l'existence d'un au-delà. C'est parce qu'il est reconnu comme un événement extraordinaire que le miracle eucharistique ne trouve pas d'explication scientifique. Il dépasse la raison humaine et il interpelle l'homme à dépasser les sens, le visible, l'humain, en admettant qu'il existe quelque chose d'incompréhensible. Vous voyez, vous avez l'athée ou l'agnostique qui est là, qui dit, mais comment ils ont fait pour découper un cœur, un tissu cardiaque, pour l'amener juste à l'autel, juste à ce moment-là. Enfin, quelque chose d'incompréhensible, d'inexplicable pour la raison humaine et scientifiquement impossible à démontrer. Offrir une occasion de parler, surtout pendant la catéchèse, de la révélation et de son importance pour l'Église et pour le chrétien. Les miracles eucharistiques se rapportent aux événements extraordinaires qui ont eu lieu après l'institution de l'Eucharistie par le Christ, après la fin du Nouveau Testament, c'est-à-dire après la fin de toute révélation. La révélation a été réalisée progressivement par Dieu, à partir d'Abraham, des prophètes, jusqu'à Jésus-Christ. Elle est en deux parties dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle est destinée à tous les hommes, à l'homme entier, de tout temps et de tout lieu, de tout pays, de toute culture, radicalement différente par son essence des révélations privées. C'est la révélation publique. Et conclue avec le Christ dans le Nouveau Testament, auquel l'Église est liée. Le dernier livre de la révélation de Dieu, c'est l'Apocalypse. Après, on ne fait que développer ce que l'on sait déjà. L'Immaculée Conception, elle est contenue dans la révélation. Pourquoi la révélation est conclue avec le Christ? Parce que Jésus-Christ est le médiateur et la plénitude de la révélation. Étant l'unique Fils de Dieu fait homme, il est la parole parfaite et définitive du Père. Par l'envoi du Fils et le don du Saint-Esprit, la révélation est désormais achevée, même si la foi de l'Église au cours des siècles devra en saisir toute sa grandeur. C'est le compendium du Benoît XVI, numéro 9. Je passe. Les miracles eucharistiques peuvent aider à connaître et à vivre la foi qui place son centre en Jésus-Christ et en Jésus-Christ Eucharistie. Jésus caché, comme disait François de Fatima. Les miracles eucharistiques nous invitent à connaître, à apprécier et à aimer la présence de Jésus dans l'hostie. Parce que l'Eucharistie en elle-même, la Sainte Hostie en elle-même, est un vrai, grand et intarissable miracle quotidien. Alors, elles mettent en évidence les paroles de la consécration. « Ceci est mon corps, et ceci est mon sang. Le pain devient le corps du Christ, et le vin son sang. » Cette transformation miraculeuse s'appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage de substance. Du pain et du vin, il ne reste plus que les apparences, ou les species, c'est-à-dire le spectacle de ce qui est visible. On appelle aussi cela en français les espèces, mais c'est un mot philosophique qui est difficile. On les appelle aussi les incidents, alors c'est encore plus philosophique, c'est les apparences. Il ne reste que la dimension, la couleur, le goût, l'odeur et même les éléments nutritifs. Mais la substance, c'est-à-dire la réalité véritable qui est devenue le corps et le sang du Seigneur, ne reste plus. La transsubstantiation ne peut en aucun cas être expérimentée par les sens, la foi seulement nous garantit une transformation aussi radical. Les miracles eucharistiques confirment cette foi qui se base sur les paroles du Christ, selon lesquelles ce qui semble être le pain n'est plus du pain, ce qui semble être du vin n'est plus du vin. Dans les miracles eucharistiques apparaissent en effet souvent la chair et le sang, l'une ou l'autre, selon les cas. Le but de ces miracles est de démontrer que nous ne devons pas regarder l'expérience extérieure, mais la substance, la réalité qui est chair et sang. Les théologiens médiévaux qui ont approfondi le sujet des miracles eucharistiques et ont donné différentes interprétations. La plus fondée est celle de saint Thomas d'Aquin. Il dit que le corps et le sang qui apparaissent après le miracle représentent la transformation des apparences, c'est-à-dire de ce qui reste apparemment du pain et du vin. Ils sont transformés miraculeusement. Mais le vrai corps et le vrai sang de Jésus ne sont pas ceux qui apparaissent, mais ceux qui, même avant le miracle, étaient cachés sous les apparences. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce n'est pas le sang de Jésus ressuscité quelque part. C'est du sang miraculeux qui a la substance, l'être du Christ. Mais ce n'est pas le sang de Jésus ressuscité qui s'échappe et qui va sur terre. Là, c'est un peu technique, donc je vais passer, mais c'est très sérieux. Ne vous noyez pas dans ces explications. Et donc, maintenant, passons à ces miracles. Ces miracles qui sont au nombre d'environ 60 miracles eucharistiques reconnus par l'Église. Je vous donne le dernier qui était reconnu par l'Église, un des derniers, en 2013. Je crois qu'il y en a un depuis aussi. Dans la ville polonaise de Basse-Silésie de Legnica. C'était lors de la messe de Noël 2013. Dans l'église Sainte-Hyacinthe à Legnica, ville polonaise. Une hostie était tombée par terre au moment de la communion. Comme cela est recommandé, elle fut mise dans de l'eau afin qu'elle se dissolve. C'est-à-dire que l'hostie, dans l'eau, va perdre l'apparence du pain, et dès qu'il n'y a plus l'apparence du pain, il n'y a plus la présence de notre Seigneur. C'est comme en nous, l'hostie, quand elle est consommée par l'estomac, le Christ, bien sûr, a augmenté sa présence et sa grâce en nous, mais il n'y a plus la présence de l'hostie. Mais au lieu de se dissoudre, des taches rouges apparurent sur l'hostie, dans l'eau. Monseigneur Stefan Cichy, C-I-C-H-Y, je ne sais pas comment on prononce, alors évêque de Legnica, nomma une commission pour étudier le phénomène. Un fragment de l'hostie fut prélevé et envoyé au laboratoire national de médecine légale. C'était, pour le laboratoire, un fragment de muscle strié, très similaire au muscle du cœur, avec des altérations qui apparaissaient souvent pendant l'agonie. L'analyse ADN a conclu qu'il s'agissait de myocarde humain. En janvier dernier, le nouvel évêque, Mgr Zbigniews Kornikowski, je crois que c'était en janvier 2016, mais j'en suis plus sûr, a envoyé ses conclusions à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Quelques semaines plus tard, celle-ci a reconnu le miracle, si bien que conformément aux recommandations reçues de Rome, Mgr Kornikowski a demandé au curé de la paroisse Saint-Hyacinthe, le père André Zwiambrobs, d'aménager un endroit approprié pour que les fidèles puissent vénérer la relique. Voilà. Le fait que le miracle ait eu lieu à Legnica n'est pas indifférent. Cette ville est en effet d'une grande importance dans la mémoire polonaise du fait de la bataille cruciale qui eut lieu en 1241 contre les Mongols. Mais cette bataille de Legnica marque un coup d'arrêt aux dévastations des Mongols. Les Soviétiques, qui connaissaient l'histoire, avaient installé à Legnica une importante garnison de l'armée rouge entièrement composée de soldats d'Asie centrale. pour vexer les Polonais. Le fait que le miracle ait eu lieu dans cette église néo-gothique n'est pas anodin non plus. Construite en 1904-1905 et inaugurée en 1908, cette petite Saint-Eugène, du temps où la Silésie était prussienne, cette église était une commande de l'empereur Guillaume II et avait pour nom église du souvenir de l'empereur Frédéric III. C'était donc un lieu de culte protestant. En 1945, elle fut utilisée comme écurie par l'armée rouge. Elle fut restaurée par la suite, mais était restée sans affectation particulière jusqu'en 1972, où elle fut érigée en nouvelle paroisse catholique Saint-Hyacinthe. Depuis 2002, c'est un sanctuaire diocésain consacré à Saint-Hyacinthe, le premier dominicain polonais. C'est sans doute l'unique cas en Pologne, depuis ces 50 dernières années, d'un ancien temple protestant transformé en église catholique et où il y a un miracle eucharistique. Alors ensuite, suit toute une liste que je vais citer comme cela.